t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi, au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs qui vous propose ce nouveau numéro. La semaine dernière, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a déclaré que l'épidémie de coronavirus constituait une urgence sanitaire mondiale, en grande partie à cause des craintes que les pays pauvres ne soient pas en mesure de faire face à une épidémie. Certaines personnes estiment que notre système de santé à RDC pourrait faire face à cette pandémie vu l'expertise acquise dans la gestion de l'épidémie d'Ebola. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 63 30 ou encore au 09 97 06 49 69 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Notez que plus de 11 000 personnes ont été touchées par ces sujets et 300 l'ont commenté et 50 l'ont partagé. Jean-Noël Mokondo assure la mise en onde de cette émission réalisée par Tati Mapoukou et J.R. Lungembo Luabung, Angie Cordonné présente ce programme. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Docteur Mbutuku, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue et président honoraire de l'Ordre national de médecins. C'est vrai que quand on parle d'un système de santé ou système de soins de santé, on décrit tout de suite les moyens organisationnels et stratégiques mis en place par pays, par zone géographique ou entité communautaire, afin d'assurer une continuité, une qualité des prestations de santé. Par rapport à Covid-19, d'aucuns estiment que notre système de santé est très performant et pourrait éventuellement faire face à cette crise sanitaire.
Oui, merci JR. Je salue tous les auditeurs de Radio Okapi. Je pense qu'effectivement, nous avons un système de santé qui est tout à fait performant avec le professeur Muyembe à la tête. Nous avons lutté contre beaucoup d'épidémies et ça a marché. Mais il y a quand même un bémol qu'il faut ajouter, c'est que bon, les hôpitaux qui doivent prendre le relais ne suivent pas. C'est depuis très longtemps qu'on a laissé pour compte ces hôpitaux qui sont restés dans leur état rudimentaire et que la suite de ce genre de situation devient tout à fait difficile et pénible.
Alors, quand vous parlez en termes des hôpitaux, on sait que aujourd'hui, les systèmes de santé réunis, les médecins, les cliniques, les hôpitaux et les pharmacies, quand déjà les hôpitaux ne suivent pas et sont dans un état rudimentaire, comme vous l'avez dit, et alors qu'en est-il des pharmacies et aussi des cliniques et des médecins?
Oui, c'est-à-dire que, à mon avis, je pense que le système de santé, c'est vrai que les devoirs premiers revient à l'État, mais les privés ont fourni beaucoup d'efforts pour aider l'État à donner des soins de santé à la population. Donc, en fait, ça doit être un problème État et privé ensemble pour donner les meilleurs soins à nos malades. C'est comme ça que moi je vois les choses.
Voilà. Alors, donc, on peut dire, comme le soutiennent d'ailleurs certaines personnes, qu'en ce moment, que des moyens soient mobilisés, des moyens financiers et conséquents pour arriver réellement à donner les résultats par rapport à cette lutte.
Oui, évidemment, il faut de moyens. Il faut des moyens parce que je donne un exemple. Je suis à l'hôpital de Momaïmo. Je suis à l'hôpital général de Kinshasa. Je suis à l'hôpital de Momaïmo et, vous ne sentez pas qu'il y a un problème sérieux à travers la République. Il n'y a pas des dispositions où on doit laver les mains et il n'y a pas de désinfectant. Donc, tout est à refaire. Or, là, dans ce genre de pathologies, il faut nécessairement, les mesures d'hygiène doivent être suivies à la lettre.
Mmh. Alors, parlons un peu de système de respiration, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont dites autour de ce dispositif qui, au fait, disons, assure la prise en charge de malades. Alors, est-ce qu'à Mamayemo, par exemple, ou encore à Kitambo, on peut trouver ce dispositif?
Non, malheureusement, on ne peut pas les trouver. Je pense que je parle sous réserve. Nous avions un respirateur, mais je ne pense pas que c'est fonctionnel à l'hôpital général. Donc, il y a très peu d'hôpitaux à travers la République qui ont des respirateurs artificiels. Donc, mais avant d'y arriver, il faut déjà des mesures d'hygiène soient prises. Ces mesures d'hygiène doivent être rigoureusement surveillées. Notamment parce que bon, nous n'avons pas de masques. Il faut des matériels. Il faut aussi, il y a un autre problème, c'est la formation de corps médical, des infirmiers qui doivent prendre en charge ce genre de pathologie. Tout doit être bien planifié de sorte que les gens qui doivent prendre en charge ces malades doivent avoir la formation qu'il faut pour parier à...
À toute éventualité. Alors, docteur Mboutoukou, quand certains analystes, disons, soutiennent que la question de la formation de corps médical ne doit pas faire l'objet des débats parce que les médecins, tout comme les infirmiers, sont soumis à une formation intégrale et appropriée pour, au fait, répondre à, pour assurer une riposte de n'importe quelle épidémie ou n'importe quelle maladie.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une formation de base que tout le monde doit avoir, c'est vrai, mais il y a des spécificités. Notamment, je prends l'exemple d'Ebola. Bon, le professeur Mouyem devrait former un certain nombre de personnes pour aller lutter, il ne sera pas seul, il doit avoir une équipe. Cette équipe-là est composée peut-être d'une trentaine de personnes. Chaque équipe doit former d'autres, de sorte que qu'on ait... On va pas... Et là, ça demande une formation... Il faut former d'abord les formateurs. Les formateurs vont former ceux qui seront sur le terrain, et ainsi de suite, de sorte à avoir des résultats positifs dans la lutte contre cette épidémie.
Alors, si on peut jeter un regard sur la gestion des dépenses liées à la santé à RDC, quelle analyse faites-vous par rapport à cette question?
Ben, je pense, à mon avis, la santé demande beaucoup plus d'argent. Malheureusement, nous sommes dans un pays où il n'y a pas assez de moyens. Parce que quand nous nous projetons vers l'Europe, nous constatons que les déficits budgétaires de tous ces pays européens et occidentaux, là, c'est la sécurité sociale, ce sont des soins médicaux. Or ici, bon, nous avons un budget qui est tout à fait très bas, et le secteur de santé n'en bénéficie que de très peu. Alors que, il faut des moyens.
Alors, au regard de cas déjà déclarés positifs en RDC, aujourd'hui on parle, en tout cas je crois, sans nous perdre de vue, selon les informations que nous avons, déjà au-delà de 45 cas et une guérison qui est déjà annoncée. Alors, donc on peut dire que voilà, la propagation s'est faite à une vitesse, déjà après 3 semaines, on est à une vitesse très 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 sensible. Comment voyez-vous la suite par rapport, bien évidemment, notre système de santé, est-ce qu'on peut arrêter une propagation rapide?
À mon avis, on peut le faire, mais à la seule condition que, un, les autorités se sont déjà impliquées, ça c'est une bonne chose, mais surtout la population qui doit répondre à cela. Parce que quand il y a certains responsables qui ont quand même opinion sur eux, qui minimisent l'acte, là c'est, excusez-moi du terme, c'est de l'irresponsabilité. Cette maladie tue, cette maladie existe. Donc tous, nous devons mettre la main dans la pâte pour essayer d'endiguer cela. Et nous ne pouvons bloquer la progression que lorsque nous respectons les mesures d'hygiène, lorsque tout le monde s'implique. À ce moment-là, nous pensons qu'on réduira
ce taux de propagation.
Merci beaucoup, docteur Mboutoukou, de nous avoir accordé votre temps pour participer dans cet échange citoyen. Nous allons devoir accueillir également d'autres auditeurs. Merci et à très bientôt, docteur.
Merci beaucoup,
J. 081-890-6330 ou encore 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Nous tenons à rassurer nos compatriotes de garder le calme en respectant les mesures d'hygiène suivantes. Se laver fréquemment et soigneusement les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les personnes qui toussent ou qui éternuent. Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. En cas de toux ou éternuement, il faut se couvrir la bouche et le nez avec le pli de coude ou avec un mouchoir à jeter immédiatement après utilisation.
Ceci est un message du ministère de la Santé de la République démocratique du Congo.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Dans quelques minutes, nous allons également recevoir Dr Patrick Kayembe de l'école de santé, ainsi que Dr Jean-Marie Kayembe, pneumologue et membre de l'équipe des ripostes du coronavirus. Amos, vous nous avez rejoint, vous êtes à Bukavu. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Je tiens aussi à saluer votre invité au studio.
Alors pensez-vous que... Oui, juste une question. Pensez-vous qu'avec le système de santé de la RDC, le coronavirus sera réellement vaincu?
Vraiment, nous doutons fort et voilà pourquoi nous nous remettons entre les mains du Seigneur Tout-Puissant. Parce que avec l'analyse de votre invité, vraiment, j'ai la terre au ventre. Et je me dis finalement, si Dieu n'intervient pas pour le peuple congolais, où serons-nous finalement? Parce que si on essaie de voir avec notre budget, le pourcentage loué au ministère de la Santé, c'est combien il est? Et c'est là que nous ne cesserons jamais de dire que nous avons toujours eu des dirigeants qui ne s'intéressent jamais du social du peuple congolais. Parce que si du moins nous aurions des dirigeants responsables, sous le préfet, il y a des questions fondamentales qui intéressent les dirigeants. Et parmi ces questions fondamentales, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a la sécurité. Mais chez nous, comment nos dirigeants perçoivent ces domaines? C'est le cadet de leurs soucis. C'est le cadet de leurs soucis, malheureusement. Parce qu'on ne comprend pas comment un pays comme la RDC essaie de voir le pourcentage loué à la santé de notre budget. Il est vrai que le budget aussi est tout autre. En fait, moins de 5 milliards de dollars avec un pays comme la RDC, c'est vraiment une injure. Mais quel est le pourcentage loué à la santé? C'est ça la préoccupation. À quelque temps, on a l'air bon. La RDC est surprise aujourd'hui avec le coronavirus qui fait rage à travers le monde. Mais vous allez comprendre que la manière dont cette pandémie est en train d'être gérée dans d'autres pays où il y a des dirigeants responsables et la manière dont cette pandémie sera gérée dans notre pays où nous avons toujours eu des dirigeants que j'ai eu à citer tantôt, vous comprendrez que ça ne sera pas de la même manière. Parce que cette pandémie exige des moyens colossaux.
Mais Amos, faites-nous d'abord une idée. Dans quel état se trouve l'hôpital général de référence de Bukavu?
Là, c'est tout autre hier. C'est tout autre parce que hier, j'ai tenté de parler des dispositifs dans la ville. Jusque-là, il n'y a aucun dispositif. J'ai eu à vous dire que même les matériels qu'on est en train d'utiliser, ce sont des matériels qu'on utilisait pour Ebola. Ce qui prouve que jusque-là, il n'y a pas de moyens pouvoir faire face à cette pandémie. On parle là de l'hôpital général de Bukavu. C'est un hôpital appartenant à l'Église catholique. Parce que c'est un hôpital qui appartenait à l'État. Mais quand l'État était incapable de gérer cet hôpital, on l'a donné à l'Église catholique. Voilà les conditions au sein desquelles nous voyons l'heure des faits. Et aujourd'hui, vous y arrivez, il n'y a pas de dispositif pouvant faire face à cette pandémie. On nous a même parlé de l'hôpital général, on a parlé de l'hôpital de Pandi, on a parlé de la clinique Saint-Luc, on a parlé aussi de l'hôpital de Tiri. Mais vous arrivez dans tous ces hôpitaux, vous allez comprendre avec regret qu'il n'y a aucun dispositif. Si du moins il y aurait des cas déjà détectés positifs au site Kivu, il n'y a aucun dispositif pouvant faire face à cette pandémie. Voilà pourquoi, juste au début, j'ai dit que je remets le peuple congolais entre les mains de Dieu.
Merci beaucoup.
Si du moins Dieu nous abandonne,
voilà. Donc si je comprends bien, au regard de notre système de santé, vous redoutez, vous donnez raison au fait à l'OMS qui émet quelques inquiétudes par rapport aux pays pauvres, selon l'OMS, il y a risque que ces pays pauvres ne soient pas en mesure de faire face à cette pandémie. Merci beaucoup Amos d'avoir appelé des boucs à vous. Voilà, Sylvain également nous a rejoint, Sylvain Tabounia. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Quelle est votre contribution, Sylvain?
Bien, si vous le permettez, je vais mener une analyse triangulaire du dossier. La première chose, c'est la gouvernance du secteur de la santé elle-même. Et la deuxième chose, c'est la gouvernance financière. La troisième chose, c'est les comportements des Congolais. Je voudrais dire ceci. Toutes les nations du monde se sont rangées dans leur gouvernance à lutter dans le cadre des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Notre pays fait membre de l'ONU et comme vous le savez, dans les 17 objectifs de développement durable, il y a le secteur de la santé qui est l'un des secteurs primordiaux. La Suisse fait un exemple qui doit assainir toutes les autres nations. Maintenant, sans oublier, je salue les deux compatriotes qui ont intervenu avant moi. Le premier compatriote qui les perdait de moyens. Moi, je me dis, c'est jusqu'à quand nous allons lamenter que la RDC n'a pas les moyens. Moi, j'ai dit que c'est faux. Le problème, ce que là j'aborde, deuxième partie de mon intervention pour revenir à la première et finir par la troisième, notre pays a tous les moyens financiers possibles puisque nous avons un budget. Dans la gestion des États, lorsque le budget a parlé de lignes à suivre pour pouvoir aux besoins des citoyens et qu'il y ait une situation qui apparaît d'une manière fatale ou brutale, bien, le procède à la correction budgétaire.
Mais oui, mais Sylvain, on peut pas se cacher la face, on ne peut pas se voiler la face parce qu'il y a des problèmes de moyens. Oui.
Excusez-moi, monsieur le journaliste.
Allez-y.
Parce que c'est important ce que je veux dire. Lorsque l'épidémie coronavirus arrive, et que cela n'a pas été prévu dans notre budget, dans le secteur de la santé.
Voilà, on a des petits soucis avec votre ligne. Sylvain, on a des petits soucis avec votre ligne, s'il vous plaît. On vous entend très mal. On ne saura pas vous garder parce que c'est vraiment inaudible. On ne saura pas vous garder le plus longtemps possible. Le temps peut-être que la ligne s'améliore. On va vous reprendre. La réalisation va nous aider. Entre-temps, on prend le professeur Dieudonné Moningo qui nous a rejoint, qui vient d'appeler, urologue aux cliniques universitaires de Kinshasa. Professeur Dieudonné, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Tati.
Voilà, vous avez souhaité intervenir dans cette émission. Quelle est votre contribution?
Bon, ma contribution, la question qui m'a été posée, c'est est-ce que l'État congolais ou bien le système de santé congolais peut gérer cette pandémie au cas où elle affectait le plus grand nombre possible? Moi, j'ai dit non. Le système de santé actuel ne peut pas être en mesure de gérer une grande pandémie comme celle de coronavirus. Vous savez que les budgets alloués à la santé, je peux ajouter même à l'éducation, le budget n'est pas convenable. Et dans ces conditions-là, nos hôpitaux sont d'abord mal équipés. D'abord mal équipés en matériel et aussi certains personnels ne sont pas payés. Vous savez que les médecins, certains médecins ne sont pas payés, bien qu'ils travaillent dans les hôpitaux de l'État. Dans ces conditions-là, ils sont aussi démotivés. Alors c'est un problème sérieux. Ce que nous devons faire, c'est d'éduquer la population à la prévention à ce stade-ci. Vous voyez, même les pays comme l'Italie, la France sont en train de s'agiter pour la gestion de cette pandémie.
Mais notre système, professeur, a aussi un problème sérieux au niveau de prévention ou de promotion de la santé mise en place dans le cadre des politiques sanitaires.
Oui, mais le problème majeur, c'est quoi? Moi, je suis en route, je suis dans mon véhicule. Je suis en train de voir comment est-ce que les Congolais sont en train de marcher. Il y en a qui marchent comme si de rien n'était. Ça veut dire que tout le monde n'est pas informé. L'information ne circule pas bien. Pourquoi? Parce que il y a des zones où il n'y a même pas d'électricité. Il y a des gens qui n'ont même pas les postes télévisés ni un poste récepteur pour suivre l'information. L'information circule de bouche à l'oreille. Même si on est connecté, des fois la connexion Internet laisse à désirer. Tout ça, ce sont des paramètres qui ne permettent pas à ce stade-ci de confirmer, de dire que notre pays ou non, la ville de Kinshasa pourrait être à mesure de pouvoir gérer cette grande pandémie du siècle qui est le coronavirus.
Alors pour vous, professeur, quels sont les éléments qui, disons, ne contribuent pas à la promotion ou à la protection de la santé à RDC?
Les éléments sont, je peux dire, tout se résume dans les budgets de notre, les budgets alloués au secteur de santé. Les budgets tout à fait modiques. Hein, je pense que si on alloue un gros budget au secteur de santé, les hôpitaux publics seront mieux équipés. Les personnels médicaux et paramédicaux seront motivés et le travail va bien marcher. Mais si ce secteur-là est abandonné à son triste sort, on attend des fois des dons à l'extérieur du pays. Rien ne pourra marcher. Hein. Ça, vraiment,
alors, par rapport à cette lutte, il y a également la question de moyens à disponibiliser pour des recherches scientifiques mises en place aujourd'hui. Ça laisse à désirer parce que on a vu dans les mondes comment les biologistes, les scientifiques se mobilisent pour, au fait, se mettre à profit et chercher à trouver les vaccins. Mais les nôtres, on ne sent pas, la détermination, l'implication de ces scientifiques.
Je vous assure, messieurs les journalistes, si vous allez dans les universités, que ce soit des universités officielles ou privées, les gens, chacun de nous se débrouille à la recherche scientifique. Hein, les gouvernements congolais n'allouent pas des fonds nécessaires à la recherche scientifique. Hein, j'en ai parlé dernièrement quand je faisais mes recherches sur les cancers de la prostate. C'est le gouvernement français qui a financé la recherche. C'était pas l'État congolais. Là, c'est un problème sérieux. Donc, je crois que ce qui est arrivé, bon, à quelque chose de malheur est bon, nos dirigeants vont se focaliser sur les systèmes à la fois de santé et de l'éducation pour pouvoir booster notre système. Parce que là, si l'État congolais ne prend pas les choses au sérieux, nous sommes partis pour la disparition totale de notre pays.
Alors, donc, vous donnez raison à l'OMS qui, craint que le pays pauvre ne soit pas en mesure de faire face à cette épidémie.
On ne peut pas se voiler la face à ce stade-ci. Notre pays ne pourra jamais faire face à cette pandémie.
Merci beaucoup, professeur.
Je
vous en prie. Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. On va poursuivre avec vous, Maître Elodie. Vous nous avez rejoint, Maître Elodie. Vous êtes à Kinshasa. Vous êtes défenseur des malades qui sont victimes, en fait, des erreurs médicales. Vous nous avez rejoint, Maître Elodie. Vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Gier.
Vous êtes avec nous et vous allez aussi contribuer par rapport à notre système de santé. Pensez-vous que le système de santé peut réellement gérer une telle grande pandémie de coronavirus?
En tout cas, merci de m'avoir associé à cette importante émission. Je peux dire très rapidement que notre système de santé n'est pas capable de gérer cette pandémie. Et par là, je pars de d'une chose. Le système de santé est basé sur des piliers. Et les piliers importants sur lesquels sont assis tout système de santé, ils sont six. Le premier pilier, c'est la prestation des services. Le deuxième, c'est le personnel de santé. Le troisième, c'est l'information sanitaire. Le quatrième, c'est les techniques et produits médicaux essentiels. Le cinquième, c'est le financement de la santé. Et le dernier, le sixième, c'est le leadership et gouvernance. Et lorsque vous interrogez tous ces différents piliers qui sont censés soutenir un système de santé efficace, quand vous regardez notre système de santé, c'est une catastrophe sur les six piliers. Et les propos que je viens d'écouter à l'introduction de cette émission, Monsieur Gilles, j'espère que ça va très vite être corrigé, sont des propos dangereux, mensongers, qui risquent de mettre, qui risquent de causer des catastrophes dans notre pays. Notre système de santé, il ne faut pas le cacher à la population, n'est pas à mesure de faire face à cette pandémie. Le fait d'avoir avec nous le grand professeur Muyembe ne suffit pas à lui seul pour que nous puissions prétendre que nous sommes à mesure de faire face à cette pandémie. Et si, par exemple, on peut regarder seulement la question des prestations de services, c'est quoi, lorsqu'on regarde les piliers des prestations de services dans notre système de santé? Les prestations de services supposent des bons services de santé sont ceux qui assurent une intervention de santé personnelle et non personnellement efficace ou sûre, qualitative. Et je veux dire, qui ont besoin en temps et lieu avec une ressource minimum qualifiée. Et lorsqu'on regarde, par exemple, la question des personnels de santé, les personnels de santé sont-ils performants? On nous a dit oui. Et là, je peux dire oui, mais non à la fois. Parce que la question, quand il s'agit d'une pandémie, est tout à fait la gestion de la pandémie n'est pas une gestion ordinaire d'un système. Cela implique des personnels formés quant à ça, renforcés en capacité, et ça implique des ressources conséquentes. Quand on regarde la question de l'information sanitaire, vous avez vu vous-même, au début de la pandémie dans notre pays, lorsque le premier cas a été annoncé, c'est vrai, on va dire que ça a été corrigé, ça va être corrigé, mais on est conscient qu'à ce jour, il y a un problème sur l'information sanitaire en ce qui concerne la gestion de la pandémie. Le système d'information sanitaire qui fonctionne bien doit assurer la production, l'analyse et la dissémination et l'utilisation d'informations fiables, j'insiste, et doit disponibiliser ces informations en temps opportun en matière de déterminants de santé. Et ça, c'est très important, des performances des systèmes de santé. Et ça, c'est un problème jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'il y a beaucoup de thèses sur la communication, vous allez aujourd'hui, il y a des gens qui nous appellent, disent non, on a été à l'INRB pour nous faire tester. On nous a dit non, on ne peut pas vous tester tout simplement parce que on n'a pas assez de tests. On privilégie des cas qui sont déjà suspects. Et vous comprenez que c'est très dangereux. Alors que la personne vient et dit, j'ai été en contact avec un contact de quelqu'un qui a été déclaré. Vous comprenez qu'il y a même un problème. Les gens aujourd'hui ne savent pas où est-ce qu'ils peuvent aller pour se faire tester. Où est-ce qu'ils peuvent... Et c'est un problème. Non seulement ça, mais nous sommes dans un système qui est privatisé. Aujourd'hui, ce sont les privés qui travaillent plus et qui ont... vous avez à chaque coin des rues une clinique, à chaque avenue un hôpital.
Un centre de santé.
Un hôpital privé. Mmh. Et c'est très dangereux parce que en matière de pandémie, c'est l'État, le public qui doit dire ce qui doit être fait. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les privés ne sont pas autorisés à déclarer un cas. Ils doivent transmettre, même si ça se passe à Kasumbalesa, à Nioki ou à Numbi ou à Kabaré, ils doivent d'abord transmettre les échantillons à l'INRB, à Kinshasa. L'INRB qui fonctionne. Voilà une autre conséquence de la médecine de la ville qui vient et qui montre à nu les faiblesses de notre système de santé. Et c'est très dangereux. Lorsqu'on fait croire aux populations que nous avons un système de santé performant, efficace, qui peut faire face à cette pandémie. Ici, docteur professeur Muyembe, lors de la conférence sur la couverture maladie universelle à Kempinski, il a dit que notre système de santé favorise les épidémies, favorise les pandémies. Pourquoi? Du haut du micro, le professeur Muyembe a dit les épidémies, les pandémies ne résistent pas au système de santé.
Mais oui, mais maître Elodie, quand vous évoquez notre système de santé qui favorise les épidémies, dixit professeur Muyembe, le cas de grand saxophoniste qui vient de nous quitter, Manu Dibango, paix à son âme, selon les informations en notre possession, dans un système de santé entre guillemets très performant et des Français, Manu Dibango avait des problèmes de santé certes, mais est allé contracter le virus de coronavirus dans l'hôpital, dans une institution sanitaire en France.
Monsieur JR, chers auditeurs, je vais le dire ici, les erreurs médicales, les faiblesses ou les détections de faiblesses dans des systèmes de santé peuvent arriver même dans les pays riches, même dans les pays où le système de santé est efficace. Ça peut arriver. Les infections nosocomiales, ça existe. Et ça, on en parle même en France, aux États-Unis. Mais le problème, c'est que notre système est très fragile. On vous a dit, docteur Mboutoukou vient de le dire ici, à Mama Emo déjà, il n'y a pas de mécanisme. Il n'y a pas de mesures qu'on sait voir, des protections efficaces. Il n'y a même pas d'eau. En Galiéma ici, est-ce que vous savez que en Galiéma les gens, les malades font même des mois sans que l'eau coule des robinets des cliniques Galiéma? Ça existe. Or, les hôpitaux sont les endroits les plus exposés à la contamination. Parce que il y a des mouvements des malades, il y a les mouvements des personnels de santé qui vont des chambres à une autre, des pavillons à une autre,
voilà,
à un autre.
Donc, un hôpital mouroir, c'est notre problème. Merci beaucoup.
Ce qui est très dangereux.
En conclusion, maître Elodie.
Ce qui est très important à souligner ici. Cette mauvaise gestion et le fait de croire et de tromper les gens que notre système est efficace expose même, parce que même ceux qui sont notre système de santé ici, les malades qui sont déclarés ou testés ou qui sont en quarantaine, est-ce que vous savez que avec la gestion avec Ebola, il y a des malades qui fuyaient les centres de traitement? Et c'est une grande faiblesse, parce que lorsqu'un malade, une personne qui est déjà infectée, fuit les centres de traitement, où est-ce qu'il va aller? Comment on va le gérer? Comment on saura par où il est passé? Et ça se passe ici. Et si on ne fait pas attention, c'est ça qu'on va connaître dans ce pays et ça sera catastrophique. C'est pourquoi nous sollicitons vraiment des chaînes comme celle-ci pour sensibiliser les populations et leur dire la meilleure prévention, la meilleure mesure à prendre, c'est de vous protéger. Parce qu'une fois que vous êtes en dehors de cette protection, que vous êtes exposé,
voilà. Donc ça appelle une responsabilité, la responsabilité personnelle.
Contaminer et le personnel soignant et tous les autres.
Merci beaucoup, maître Elodie. Mais nous vous gardons encore en ligne parce qu'il y a un problème de la question des respirateurs que nous allons aborder avec vous. Le temps d'accueillir avec nous. Bah, merci maître Elodie. On va vous retrouver très prochainement. Gloire, vous êtes à Lubumbashi. Vous gardez la ligne. John Ali Kassi, 081 890 63 30 ou encore le 081 890 4969 pour votre intervention directe.
Nous tenons à rassurer nos compatriotes de garder le calme en respectant les mesures d'hygiène suivantes. Se laver fréquemment et soigneusement les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les personnes qui toussent ou qui éternue. Évitez de se toucher les yeux, le nez et la bouche. En cas de toux ou éternuement, il faut se couvrir la bouche et le nez avec le pli de coude ou avec un mouchoir à jeter immédiatement après utilisation.
Ceci est un message du ministère de la Santé de la République démocratique du Congo.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans cet échange citoyen ou la semaine qui est consacrée sur la position de l'Organisation Mondiale de la Santé qui craint à ce que les pays pauvres ne soient pas en mesure de faire face à une telle épidémie. Alors certaines personnes estiment que notre système de santé, la RDC, pourrait faire face à cette pandémie vu l'expertise acquise dans la gestion de l'épidémie d'Ebola. Gloire, vous êtes à Lubumbashi. Qu'en pensez-vous, Gloire? Bonjour Gloire.
Bonjour, bonjour JR et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi. Ce matin, je reviens sur la question qui se pose pour intervenir en trois volets, c'est-à-dire je vais parler de la responsabilité, je vais aussi parler du problème du système, parce qu'il s'agit bien du sujet du jour, et je vais aussi parler de ce qui concerne les financements en soi pour les projets. Alors, si je veux commencer avec le premier point qui concerne la responsabilité, c'est-à-dire la gestion sanitaire à ce niveau où nous nous retrouvons, je ne sais pas, c'est entre les mains de qui. Parce que si je reviens au moins avec un petit rappel, il y a deux cas qui ont été testés positifs ici, et le gouverneur a pris la parole pour médiatiser cela. Et à juste cause, la population a été mise en quarantaine, en confinement. Donc, c'est-à-dire la journée d'hier et d'aujourd'hui, la population ne s'est pas vaquée à ses occupations. Et du coup, c'est le soir, les ministres nationaux qui confirment sur les nets qu'effectivement, les deux cas qui ont été, pour lesquels l'échantillon ont été envoyés à l'INRB sont testés négatifs. Bon, alors, il y a déjà un problème de confusion. On ne sait pas entre l'autorité provinciale, entre les ministres et les gouverneurs, qui est censé vraiment donner l'information, qui est censé vraiment confirmer les cas testés positifs. Alors j'ai comme l'impression qu'au niveau du ministère, il y a une faiblesse. On n'arrive pas à gérer ces systèmes là-bas par ceux-là qui les détiennent. Donc le ministre provincial devrait avoir rapport. Une fois que les échantillons envoyés par l'INRB, l'INRB devrait fournir les résultats des laboratoires au ministre provincial qui à son tour allait faire rapport à l'autorité provinciale. Alors ici, la question que moi je me pose, c'est de savoir par quel moyen, avec quel appareil on s'est servi ici à Lubumbashi pour arriver à tester les malades là sur place positifs, le même jour et au même moment, alors qu'il faut 48 heures pour que les échantillons soient traités. Et du coup, là, on nous lance l'information pour dire qu'il y a deux cas testés positifs ici, à ce niveau. Alors déjà, là, vous mettez la population dans...
Oui, mais Gloire, nous l'avons toujours dit, à chaque épidémie, les échantillons sont toujours envoyés à Kinshasa, parce que c'est la structure habilitée à faire des examens approfondis et déclarer positif ou négatif quelqu'un qui est suspect.
Bon, c'est ça que j'ai dit. Donc, il y a vraiment un certain désordre à un moment, et la population ne sait pas qui comprend, qui croit. Parce que les gouverneurs en sa qualité...
Voilà. Donc là, vous avez évoqué la question de la responsabilité. Alors, parlons maintenant de notre... Et ça vous renvoie directement à notre système de santé qui est faible, si je comprends bien vos propos.
Non, je ne dis pas que le système de santé est faible. Donc, tel qu'il a été structuré, le système de santé est capable de faire face à toutes ces situations là-bas. Mais la question qui se pose, c'est au niveau, ceux-là qui détiennent ces systèmes là-bas, il y a un problème de fonctionnalité, un problème de praticabilité, un problème d'effectivité. C'est vrai, à ce stade ici, on demande à la population d'observer les mesures. Mais j'ai comme l'impression qu'on demande plus à la population, au lieu que nous, corps soignants, nous puissions protéger cette population. Comment on peut demander à la population de se payer elle-même les cache-nez?
alors que c'est le ministère qui devrait les faire systématiquement. Donc en ce moment, on devait mobiliser des recettes à ces niveaux, mobiliser les financements à ces niveaux.
Voilà, nous allons revenir demain, c'est comme on vous l'avait promis, on va faire une série des émissions, demain ça sera des effets socio-économiques des confinements et aussi de l'accompagnement des mesures prises par les gouvernements. Merci beaucoup Gloire, Arsène, de l'avoir proposé, donc rendez-vous demain par rapport à cette question sur les effets économiques. John, vous êtes à l'ICASI, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Kati.
Mais quelle est votre contribution, John?
Bon, pour moi, mon point de vue, comme on parle de pays pauvres, effectivement, nous attend un pays pauvre. Je pense que en RDC, nous ne mourrons plus de coronavirus comme on est en train de le penser. Mais moi, je crois qu'on mourra plutôt de faim, puisque les autorités, chaque fois, prennent des mesures. Ils ne pensent même pas à la situation économique et cette population.
Voilà, c'est pourquoi j'ai dit cette question, nous allons l'aborder demain. Donc prenez votre mal en patience. Demain, on aura des spécialistes également pour voir quel doit être le service que doit rendre en ce moment l'État pour les bars, les restaurants, les tenanciers, tous ceux qui sont dans le secteur de l'économie, pour que cela ne soit pas disons impacté négativement. Merci beaucoup, John. Alors on va retrouver notre invité qui nous a rejoint, professeur Jean-Marie Kayembe, qui est avec nous. Bonjour, professeur.
Bonjour, Radio Kapi.
Vous êtes doyen de la faculté de médecine à l'UNIKIN et en même temps, vous faites partie de l'équipe de la riposte de coronavirus. La réflexion tourne autour de notre système de santé. Peut-il être capable de gérer aujourd'hui l'épidémie?
Nous disons que le système de santé a des structures qui peuvent nous permettre d'y arriver de manière tout à fait propre. Il faut certes simplement que ces structures soient organisées selon un système de communication qui va de bas en haut et de haut en bas. De haut en bas, je voudrais dire qu'il y a une autorité qui doit pouvoir confirmer éventuellement une épidémie ou la nature d'une infection. En l'occurrence, ici chez nous, la confirmation jusqu'aujourd'hui, elle s'est faite par le seul INRB qui est doté du matériel aujourd'hui des biologies moléculaires à même de certifier. Encore que à l'INRB, même parfois certains tests douteux, les prélèvements sont parfois repris pour ne pas, vous comprenez ce qui peut arriver, donner des résultats qui n'en sont pas. Mais à côté de ce mode de diagnostic, il y a évidemment les tests rapides qui foisonnent actuellement. L'économie ne dort pas, les vendeurs, parfois d'illusions, ne dorment pas, on envoie des tests de tout genre. Or, les tests rapides doivent avoir une certification de l'OMS. Et quand bien même il y en aurait, l'autorité de laboratoire, l'INRB, doit pouvoir valider avant de répandre dans la population. Remarquez la responsabilité que l'on a de déclarer quelqu'un positif quand il ne l'est pas, ou d'en déclarer un autre négatif alors qu'il est positif. Ça a des conséquences et implications de santé publique énormes. Mmh. Donc, je me résume, le système existe, il est bon. Il faut simplement le renforcer, y mettre de la discipline. Lorsqu'on sait qui fait quoi, quelle compétence fait quoi, je pense qu'il y a moyen de remettre absolument de l'ordre.
Alors vous êtes un pneumologue, c'est vrai, les gens n'en parlent pas beaucoup en RDC, mais on sait que le coronavirus, c'est pratiquement une question de pneumonie et qui vous concerne directement d'ailleurs. Mais la grande question, la prise en charge aujourd'hui, combien de respirateurs avons-nous dans notre système de santé pour ne parler que des hôpitaux généraux de référence? Parce qu'on venait de recevoir également en début de cette émission, docteur Mutuku, qui a évoqué des respirateurs qui existent à Mamayemo, mais dans quel état à Kitambo, il ne sait même pas si ça existe. Et bon, voilà. Donc toute cette question, ça met et quand même, ça donne à penser, et puis ça suscite des craintes dans les chefs des uns et des autres.
Oui, laissez-moi rappeler tout de même que c'est vrai, les complications aujourd'hui les plus importantes, les plus à pouvoir de létalité élevée demeurent la pneumonie, des complications respiratoires. C'est vrai, la plupart des personnes qui en souffrent, un certain pourcentage, je voulais dire, il est aux environs de 5% d'après les études de Chine, d'Italie et de France que nous recevons, ont besoin une infime partie a besoin d'une assistance respiratoire. Ceci ne nous dédouane pas. Mais déjà, le professeur Muyembe, qui a pris la riposte en main, a organisé et structuré, a demandé à la commission de prise en charge de voir, d'inventorier le nombre de respirateurs. Je suis à même de vous dire qu'aujourd'hui, sur la ville de Kinshasa, nous disposons dans certaines formations médicales, et pas toutes, mais au total d'une cinquantaine de respirateurs, ce qui n'est pas suffisant si on devait arriver à prendre en charge beaucoup de patients en insuffisance respiratoire. Mais, ceci dit, nous mettons les responsables, les décideurs, ceux qui ont le pouvoir de nous pourvoir en matériel et nous équiper, de parer au plus pressé et d'en fournir. Et ça, je crois bien, le ministère de la Santé publique, ne l'oublions pas, a pris des dispositions sur avis des experts, dont le professeur Muyembe et nous-mêmes, pour pouvoir permettre au pays de faire face à certaines situations. Mais je dois vous avouer que ce n'est pas une histoire facile. Lorsqu'on regarde un pays où le système de santé est quand même un petit peu plus fort que chez nous, l'Italie, vous arrivez parfois jusqu'à 400, 500 morts sur une journée. Écoutez, c'est quand même une question préoccupante. Raison pour laquelle notre premier volet d'intervention, c'est conseiller, divulguer, vulgariser surtout les mesures de prévention qui sont très simples et qui nous permettront de ne pas arriver forcément aux besoins de respirateurs, etc. Alors, retenons que 80% des malades sont quand même une pathologie sous forme bénigne, une petite toux, un petit rhume, comme la grippe que pratiquement tout le monde a déjà pu faire. Mais il reste quand même des transmetteurs à la petite portion de personnes qui vont avoir des situations graves et qui peuvent nécessiter jusqu'à une assistance respiratoire.
Alors, est-ce que vous nous faire une idée sur la prise en charge aujourd'hui? Parce que nous avons vu depuis hier une liste qui circule, les points de prise en charge, notamment dans des hôpitaux. Ceux qui sont à Mongafula, à Lemba, doivent se contenter de l'hôpital Moncolé et clinique universitaire. La liste circule, je crois que c'est déjà mis à disposition du public. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la prise en charge sera bien assurée?
Elle est organisée tout de même. Imaginez, on a un problème du côté d'Ndjili, près de Kolé, au-delà. On s'est organisé, ça c'est l'organisation du secrétariat technique que coordonne le professeur Muyembe, afin que les cas qui nécessiteront une hospitalisation avec assistance plus importante puissent aller dans les différents pôles organisés dans la République. Tout ceci, c'est pour pouvoir nous organiser et parer au plus pressé, parer absolument à ceux qui devront être assistés, peuvent l'être dans ces structures qui sont désignées aujourd'hui. Avec l'évolution de l'épidémie, l'adaptation pourra se faire. Il y a même une adaptation à faire quant au choix également des molécules qui peuvent être administrées, qui évoluent avec le temps. Vous remarquerez qu'en Chine, on a commencé à traiter ces virus avec des molécules qui ont nécessité des changements éventuellement. Et aujourd'hui, nous bénéficions de l'expérience des uns et des autres pour nous adapter à ce qui est possible, à ce qui a semblé quand même apporter des résultats positifs chez les autres.
Voilà, nous vous gardons en ligne, professeur Jean-Marie Kayembe. Il est temps d'écouter deux autres auditeurs et puis on revient à vous pour conclure cette émission. Simon est à Kananga et Bati à Kinshasa. Simon, vous êtes avec nous, bonjour. Simon, vous êtes avec nous? Alors, on prend plutôt Batier qui est à Kinshasa. Batier, bonjour.
Bonjour, Radio Capi. Je dois d'abord saluer tous nos compatriotes qui nous suivent. Juste, monsieur le journaliste, d'après l'OMS, je pense que l'OMS a raison, parce que si nous regardons comment la situation se passe ici à Kinshasa, c'est plus que catastrophique, parce que notre système de santé, ça ne peut jamais répondre à cette situation. Déjà, notre politique n'a pas un système de gestion des urgences ou des épidémies. Monsieur le journaliste, moi je vis à 100 mètres de la clinique Ngalima. Vous pouvez vous croire que déjà à 100 mètres de la clinique, il y a les activités qui se font au niveau du rond-point Kitambola. Or, on sait déjà qu'il y a juste les cas et les décès au niveau de la clinique Ngalima. Et aussi, je ne comprends pas comment notre gouvernement, par son ministère de la Santé, doit choisir des endroits où il y a une forte agglomération de la population pour mettre juste un centre d'hospitalisation pour les victimes de corona. Moi, je pense que même les plans d'intervention pour nos spécialistes, même les professeurs qui sont au plateau, moi, je pense que je ne sais pas comment ils réfléchissent sur ces dossiers. En principe, dans les gestions des épidémies telles que les corona ici, il y a quand même les principes. On doit quand même isoler la population avec ces patients qui peuvent contaminer la population facilement. Moi, je pense qu'ils doivent d'abord chercher comment protéger la population, isoler ces cas-là. Moi, je ne vois comment ils doivent mettre encore les centres de traitement de ces coronas dans des hôpitaux où la population parte pour recevoir des soins ordinaires et ils mettent encore les gens des coronas à l'intérieur. C'est juste exposer la population. Moi, je pense qu'ils doivent quand même changer le système. C'est le gouvernement qui doit faire des discussions comment gérer les épidémies. Ils doivent isoler ces gens-là. Ils doivent avoir des plans, organiser les espaces, voir aussi même les gens qui doivent intervenir, les paramédicales. Je confirme que même ici, moi, je suis ingénieur, mais on n'a pas un plan d'intervention des urgences parce que même les ingénieurs congolais ne sont pas mesurés.
Merci beaucoup.
Ils construisent même des structures.
Voilà, merci beaucoup, Mathieu. On n'a plus assez de temps et puis on va conclure avec notre invité, Jean-Marie Kayembe, doyen de la faculté de médecine à l'UNIKIN. Professeur, vous venez de suivre, il a un problème que vient de poser Mathieu de Kinshasa. Alors, que répondez-vous à cet auditeur?
Oui, allô, oui, bonjour. Oui, je viens de suivre l'intervention de notre ami, qu'il se tranquillise et à chacun un petit peu le domaine dans lequel il a un petit peu plus d'informations à livrer sans en avoir forcément de monopole. Les gens qui seraient pris en charge dans des structures médicales sont isolés. Nous savons déjà que l'on conseille notamment la distance d'au moins un mètre lorsqu'on doit, dans les mesures préventives simples et facilement applicables. Ces mesures le sont également lorsqu'on a des patients dans des périodes isolées au niveau d'un hôpital. Nous avons déjà traité dans nos hôpitaux, dans certains en tout cas, par exemple des malades qui ont la tuberculose multirésistante, qui est une tuberculose assez dangereuse lorsqu'elle est contractée. Ce n'est pas là le problème. Et dans le plan, effectivement, dépendant des financements qui peuvent accompagner, il y a lieu de prévoir éventuellement et très rapidement des centres d'isolement un petit peu plus à l'écart, aérés, mais qui doivent être absolument accessibles. Imaginez, avec les manifestations respiratoires, un patient en nécessité d'oxygène rapidement. Si le centre était à Montcollet, il n'aura jamais le temps d'y arriver, déjà avec toutes les difficultés, les embûches, etc. Le tout, c'est de renforcer, d'équiper les hôpitaux en moyens d'assistance pour la frange, le pourcentage de personnes qui en ont besoin, et d'élargir surtout la surveillance qui accompagne aussi tous les plans qui sont montés à l'heure actuelle. Et de manière plus utile, ce sera surtout une bonne information, une bonne communication dans le sens de renforcer la prévention. Mmh. Si chacun applique les mesures préventives assez correctement, si l'État qui décide, parce que c'est une décision qui doit venir des politiques, d'un confinement éventuellement à plus grande échelle et à plus grande importance, cela également, l'État va s'asseoir certainement sur l'expertise, passez-moi la tautologie, de ses experts. Ne pensons pas qu'il n'y a rien du tout de fait, qu'il y a en face des cœurs totalement insensibles, non. Nul n'est insensible et nul ne peut être négligé non plus dans la prise en charge. Il faut un élan nationaliste, une collaboration et participation de tous et d'abord renforcer les mesures de prévention.
Donc, en conclusion, juste une question de curiosité. Ceux qui se sentiront malades ou ils veulent se faire tester, comme c'est déjà publié des formations hospitalières, tout s'est fait gratuitement, c'est gratis?
Je pense que l'État, comme pour la prise d'Ebola, vous l'avez dit au départ, nous avons une habitude, on a quand même la gestion d'Ebola, 10e épidémie aujourd'hui. En général, dans les structures qui prennent en charge les traitements, devraient, sont déjà, c'est l'habitude, gratuit. Et laissez-moi jouer mon rôle de scientifique et n'est pas ici prendre le fauteuil de décideur. Organisateur.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Je pense qu'absolument, ça doit être pris en compte.
Merci beaucoup, Jean-Marie Kayembe, doyen de la faculté de médecine à l'UNIKIN, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté également d'échanger avec les auditeurs. À très bientôt.
qui ne répondent pas.
Merci beaucoup.
Par ici que nous mettons un terme à cette émission et nous allons nous retrouver donc demain dans un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Merci à Jean-Noël Mokondo qui a assuré la mise en onde de cette émission. Tati Mapoukou était à la réalisation et Jir Lungembo a coordonné et présenté ses programmes. Et on se retrouve avec vous demain. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.